Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le silence, c'est au dire même de mes invités de ce matin ce qui lie les trois films dont nous allons parler. Silence sur des drames familiaux et les raisons que l'on a réellement de vivre pour le premier. Silence autour d'un meurtre, seule manière pourtant de laver ce dernier, des conditions peut-être de la confiance et du véritable amour. Silence d'un enfant devenu adulte stupéfait devant le mystère du mal, marqué à vie de ne pas avoir trouvé les mots de quoi, hélas, discuter. Le grand écran, c'est donc le thème de cette émission Vivante Église, rendez-vous cinéma, apprécié des auditeurs, du moins on l'espère. N'hésitez pas à nous faire des retours pour savoir s'il faut continuer ou surtout ce qu'on pourrait faire de mieux pour cette émission. Et nous sommes toujours avec Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, monsieur cinéma, non c'est vrai qu'il ne faut pas que je dise monsieur cinéma, intervenant cinéma au Cotopaïs, les centres jésuites du Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Aujourd'hui, on va parler de trois films. Alors, ils ne sont pas tous les trois à l'affiche. Comme d'habitude, le premier à l'affiche, c'est « Tout ce qu'il me reste de la Révolution » de Judith Davis, ou David, Davis, il faut dire ça en anglais ?
Oui, Davis.
Oui, ouais, Davis.
Même si elle est française.
Même si elle est française, c'est pour ça que j'ai hésité. Qui est actuellement donc à l'écran, qui sera donc le prochain film du fameux Ciné-Parole, ce ciné-club proposé par ces deux messieurs. En l'occurrence, ça sera le mardi 12 février prochain, deux séances, comme d'habitude, 14h30, 20h30. On voit le film et puis après on en parle et c'est au cinéma l'ABC, cinéma d'art et d'essai à Toulouse. Le deuxième film, ça sera Au revoir les enfants de Louis Malle, chef-d'œuvre humaniste du mois, et ensuite La loi du silence d'Alfred Hitchcock pour le chef-d'œuvre spirituel, même si sur les catégories Paul nous dira qu'on aurait pu peut-être inverser. Comme d'habitude, on va commencer par écouter la bande-annonce du premier, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, avant d'en parler.
Au jour d'aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est en ce moment, et c'est très clair, on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié. Je suis vraiment désolée.
C'est le monde qui est comme ça.
Tu sais ce qu'elle te dit, la génération Prozac ?
Nous, à notre époque, c'était différent. C'est vrai que vous avez pas de chance.
Ça ! Tu as adopté le style de la maison ? Hein ? Je retourne ma veste ! Et voilà !
Angèle, on se détend là.
Virée du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing.
Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque.
En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi.
De toute façon, c'est à peu près la même idée générale, enfin, les doigts, les zizi.
Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman. Je crois qu'elle aimerait te voir.
Et ? Ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté.
Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réaliser que le monde était absurde, que la vie était absurde.
Pourquoi on vit comme on vit ? Pourquoi on fait certains choix ?
Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais tu grandis un peu, Angèle ?
C'est dingue, on peut plus la poser la question du pourquoi ?
Eh ben non, on peut plus la poser.
Et pourquoi ?
Je pensais que t'étais quelqu'un qui avait pas peur de s'engager.
Bah, elle m'a proposé qu'on s'installe ensemble, mais la vie à deux, là, j'ai pas le temps.
Je me vois encore, je devais avoir 13 ans, et je dis à mon père que mon rêve, c'est d'inventer des idées pour changer le monde. Mais c'est difficile de passer de la théorie à la pratique.
Ça m'arrive souvent de rêver que je suis nazie, enfin pas forcément nazie directement, mais
Emmanuel est dentiste.
Ouais.
Voilà, donc Tout ce qu'il me reste de la Révolution actuellement sur les écrans et prochain donc film du Ciné-Parole. Je vais lire quelques critiques pour commencer. Le journal La Croix, le talent de Judith Davis, actrice, scénariste et réalisatrice, éclate dans cette comédie, pleine d'un charme impétueux sur la perte des idéaux. Télérama, une comédie qui redonne la foi en tout. Les cahiers du cinéma, quelque chose du pur esprit de 68 rejaillit là de manière simple et directe. Interroger le quotidien en l'interpellant, remodeler à la volée son cadre de vie, réclamer le droit à l'épanouissement. Racontez-nous, Louis-Marie, l'histoire un petit peu de ce film, de cette fameuse Angel, qui est jouée donc par Judith Davis, qui est l'actrice principale du film, la scénariste et la réalisatrice.
Elle est co-scénariste. Elle a été
co-scénariste.
Aidée. Elle a été aidée. Non, mais c'est bon de le préciser. On ne lui doit pas. Elle n'a pas écrit toute seule et en toute seule le scénario. Elle n'a pas écrit toute seule les dialogues qui sont remarquables et on le sent très écrit, bien qu'on puisse penser que les acteurs, à la façon dont ils jouent, improvisent. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'histoire, au départ, Judith Davis fait partie d'un collectif, et non pas d'une troupe, et il insiste là-dessus, sur collectif, le collectif.
Qui en dit long déjà sur le reste.
L'avantage du doute, parce que tous les acteurs et les comédiens qui font partie de ce collectif proposent des idées, et quand ils écrivent un spectacle, quand ils écrivent une pièce, ils l'écrivent tous ensemble. Et donc, ils ont écrit effectivement un spectacle qui avait pour titre « Tout ce qu'il me reste de la révolution ». Ça continuait aussi avec le nom d'un personnage.
Simon.
C'est Simon. « Tout ce qu'il me reste de la révolution », c'est Simon. Qui joue d'ailleurs dans le film, qui joue le rôle du père d'Angèle, qui a une sœur aussi dans le film. Et à partir de ce spectacle... elle a écrit un film, elle a écrit un scénario, donc j'ai dit aidée par une co-scénariste, et qui est là une œuvre personnelle. Et elle a écrit pour ses acteurs en particulier, ceux qui tournent avec elle.
L'histoire, Louis-Marie, avant qu'on...
Alors l'histoire, elle est très simple, c'est une jeune fille qui revient de... qui a la difficulté, voilà, comment concilier ses idéaux et ses convictions politiques avec la société de consommation et de performance, ajoutant à ça que ses parents, eux, ont été militants à leur époque, et on a pu entendre dans la bande-annonce, le père, lui, est resté bloqué à l'époque où il distribuait encore l'humanité, à savoir que, entre ça, le fait de distribuer l'humanité, et puis qu'il n'a pas vu, en fait, ses filles grandir, parce que quand elles viennent le voir, il continue à leur faire des pâtes en lettres. Des pâtes en lettres qu'on fait aux enfants de 6 ans, et toujours au coin d'une table. Et la mère, elle a tout abandonné.
Elle a abandonné le combat politique.
Le combat politique, et la famille aussi. Elle est partie s'installer à la campagne. On ne sait pas trop où, mais c'est une campagne reculée. Et donc, elle en veut à sa mère, moins à son père, parce qu'il est toujours là. Parce que c'est là qu'elle va aller, puisque le film commence, elle quitte...
Elle a plus de travail.
Elle a plus de boulot, donc elle a plus d'appartement.
Voilà, donc on va dire une enfant de la génération post-68, quoi, dont les parents en tout cas avaient fait 68, génération déprime, on a l'impression en tout cas quand on entend la bande-annonce, à l'heure d'une forme de déprime mondiale où la question aussi du sens se pose. J'ai noté aussi quand elle parle de l'avantage du doute, son collectif, qu'il y a une question qui traverse ce collectif et qui a motivé la troupe depuis les débuts et en partie le film, c'est que faire aujourd'hui. Alors Louis-Marie, pourquoi ce film vous a plu? Est-ce parce que, entre autres, il pose cette question de manière, on va dire, directe et en même temps enlevée, comme on l'a entendu?
Oui, c'est justement la façon, le parti pris qu'a eu Judith Davis pour parler de ça. Comment parler de ces illusions, les illusions politiques de gauche, marxiste en l'occurrence, mais ces illusions qui se sont foutues, cassées la gueule, quoi. Alors elle choisit le ton à la fois romantique pour l'action, parce qu'il y a l'amour de la famille, et puis l'amour tout simplement de l'autre, et puis ses opinions politiques. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Angèle? Eh ben, elle passe son temps à vitupérer après tout le monde. Elle râle. Quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, on l'a entendu aussi dans la bande-annonce, elle dessine, elle a un marqueur toujours à portée de la main, et elle griffouille, elle barbouille sur une affiche, sur une devanture, la devanture d'une banque. C'est là le fameux doigt d'honneur, c'est la devanture d'une banque.
Voilà. On va écouter un extrait, puis non pas un extrait, c'est une interview que vous avez faite, oui, d'elle lors d'une projection ici à Toulouse.
Oui.
Voilà, vous pouvez dire peut-être la nature de votre question avant qu'on écoute sa réponse.
Eh bien, à ce moment-là, je lui ai demandé si en fait Angèle, elle est en colère. Est-ce qu'elle est d'accord sur le fait qu'Angèle soit en colère? Voilà sa réponse.
On l'écoute.
Oui, elle est en colère. Elle est en colère contre l'absurdité du monde. Elle est aussi anachronique, parce qu'on le disait tout à l'heure, elle se rêve héritière d'un combat politique dans le paradigme du monde ancien. Et ça, c'est peut-être pas simplement sur le plan politique qu'elle est limitée, mais aussi peut-être sur le plan affectif, parce qu'en fait, tout se mélange. Oui. On n'est pas simplement des êtres de mots et de théories, on est des êtres de souvenirs et de petites musiques intérieures. Donc voilà, Angèle, elle a du mal à faire cohabiter tout ça, peut-être à la manière dont les gens s'engageaient ou épousaient la cause révolutionnaire dans ces années-là. Tout était toujours en deçà de cette cause, l'amitié, l'amour, la famille. Voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de sa famille quand on a passé son temps ou sa vie ou sa jeunesse à remettre en cause la famille comme valeur bourgeoise? On a quand même eu des enfants, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors Paul, pour introduire votre propos ou ma question, j'ai cherché quelques-uns des éditos du journal La Dépêche du printemps dernier, à l'occasion donc de l'anniversaire de mai 68, des 50 ans de mai 68, et le propos de l'un des éditorialistes m'a frappé. Mai 68, une référence pour ceux qui l'ont vécu. Ils continuent de croire qu'ils ont changé la société, et c'est un peu vrai. Et tout son édito, c'est une manière de dire: ça fait partie de notre histoire, on y a cru, on sent bien que la révolution n'a pas eu lieu, mais il ne peut pas s'empêcher de finir en disant: est-il possible que tout recommence? Y a-t-il une nostalgie quelque part autour de mai 68 qui ressort de ce film et qui vous a semblé intéressante?
Alors, il y a sûrement des nostalgiques d'ailleurs dans le film. Le père est resté, non pas nostalgique, mais un peu cramponné comme une huître sur son rocher à 68, mais il ne s'est pas ouvert à ce qui venait. Donc, il est un petit peu en dehors aussi du combat social et de la société. Il est dans son souvenir idéalisé et un peu inefficace. La mère, elle, est partie.
Et on ne sait pas pourquoi, c'est ça?
Le film ne dit pas pourquoi elle est partie. Mais on comprend qu'elle vit en rupture avec ce qu'est devenu la société. Il y a un rejet de la société de consommation et tout faire. Elle fait des petits marchés, elle vit simplement, etc. Et il y a une cassure entre la mère et la fille cadette, qui est Angèle. Et dans l'histoire du film, on voit justement un déplacement qui va se faire, qui est très intéressant. C'est que Angèle va quitter l'espèce d'adoration, idéalisation du père. Elle était très en colère contre sa mère, mais elle découvre, au hasard d'une conversation de son père avec un copain ex-68 à Roussy, que, en fait, la mère n'est pas partie à cause d'elle ou pour rompre avec ses enfants, mais par choix d'une autre vie. Et elle dit: mais ça, je ne l'ai jamais su, ça.
Ce qui est peut-être une manière d'être,
elle en voulait à mort
d'être plus
à sa mère.
Fidèle à son idéal de jeunesse que ne le pensait Angèle.
Oui, c'est ça, beaucoup plus. Et surtout, elle ne l'a pas rejeté. Alors que Angèle se voyait orpheline de sa mère. Et il y a un lent travail de rencontre, de reconstruction qui se fait entre Angèle et sa mère.
Parce qu'elle avait décidé de partir, mais elle avait proposé au père, en fait, son compagnon, de venir avec elle.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu, Paul Dima, dans ce film? Vous me disiez que le fil conducteur était le silence par fidélité. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui parle du silence, là, en l'occurrence?
Alors, le père, en fait, est enfermé dans une forme de silence, c'est-à-dire qu'il n'a rien dit de l'histoire familiale, tout préoccupé qu'il est, ou tout enfermé dans sa vision idéale, idéologique de la société telle qu'elle était rêvée en 68, et pas seulement rêvée, mais essayée, mais il est resté bloqué là. Et Angèle est un peu enquistée dans cette espèce de plaque arctique qui ne bouge pas, alors que le monde a dérivé vers autre chose. Et par contre, elle va franchir l'espace pour rencontrer sa mère et rompre le silence dans lequel on l'a enquistée.
Je vous propose qu'on fasse une première pause, si ça vous va, moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Louis-Marie. Non.
Justement, c'est à partir du moment où Angèle va faire ce cheminement, qu'elle va sortir de sa réponse monolithique à ce qui se passe, pour accepter ce qui est devenu sa mère, et accepter l'amour aussi. Jusqu'à ce moment-là, il y a un moment important dans le film, c'est qu'il y a sa sœur qui a, elle, une vie, elle est très bien dans la société de consommation, sa sœur, son beau-frère, elle est mariée, ils ont des enfants, le beau-frère est dans une entreprise, on voit, il a un langage très...
managérial, voilà, efficacité... Très,
mais un moment, dans un repas, il pète complètement les plombs et on se rend compte qu'il est complètement en souffrance et qu'il a été foutu dehors. Quoi. Et à ce moment-là, elle est coincée, là c'est fini. Et elle s'est dit, bon ben il y a quelque chose à faire là et il faut que j'aille voir maman et il faut que je m'occupe de Saïd. Voilà.
Voilà, donc un film peut-être sur l'idéalisme, sur la jeunesse et sur la manière de transformer ça ou d'entrer en partie dans l'âge adulte sans renier tout à fait ses idéaux. On va faire une première pause, Louis-Marie, cette pause c'est...
Alors on avait envie de passer un extrait de la bande originale du film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution », mais c'est compliqué, on n'a pas pu avoir d'extrait, c'est une bande originale. Donc on n'a pas d'enregistrement. Alors comme on a fait un petit choix de tout ce qu'il me reste de la Révolution, c'est peut-être un peu la Bella Ciao, être résistant. La Bella Ciao, c'était un chant de résistance de femmes qui étaient au travail dans les rizières et qui souffraient, qui étaient maltraitées, qui est devenue l'adaptation par les partisans italiens d'un chant de résistance contre l'Allemagne fasciste. Alors pourquoi pas l'écouter?
Voilà, il en sait des choses quand même. On fait une pause.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma, rendez-vous mensuel. Avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h, émission cinéma de Radio Présence. Et Paul Dima, intervenant cinéma auprès des Cotopaïs, centre jésuite du Sud-Ouest. Tous deux animateurs donc de ce ciné-club, ciné-parole. En l'occurrence, le film du mois, c'est donc « Tout ce qu'il me reste de la Révolution » que l'on a écouté, dont on a parlé au début de cette émission, film de Judith Davis, premier long-métrage. On le précise puisqu'on avait oublié. Rendez-vous est donné donc pour deux séances de ce ciné-débat appelé Ciné-Parole, mardi 12 février à 14h30 et 20h30. Le chef-d'œuvre spirituel du mois, Au revoir les enfants. film de Louis Malle, sorti en 1987. Ça m'a amusé parce que, en posant la question à un stagiaire à la rédaction, je lui ai dit « Est-ce que tu as entendu parler de ce film ?» Il a ouvert des grands yeux. Forcément, il est né en 1995. L'histoire, donc, pendant la France occupée, de l'amitié d'un certain Julien et d'un autre jeune qui se fait appeler Jean Bonnet. Film que probablement beaucoup d'entre nous avons vu et on a été bouleversés par ce film qui a reçu de multiples prix. On va commencer par écouter la bande annonce et on vous retrouve tout de suite.
L'appartement me paraît vide sans toi. Oh, Paris n'est pas drôle en ce moment. Nous sommes bombardés presque chaque nuit. Il est vraiment temps que la guerre se termine.
Mes enfants, je vous présente Jean Bonnet, votre nouveau camarade.
Eh, hey, bonne nuit !
Bonne
nuit ! Ça suffit !
Vous vous entendez bien avec votre nouveau camarade ?
Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Julien Quentin. Et si on me cherche, on me trouve.
Soyez très gentil.
Pourquoi ? Il est malade ?
Mais pas du tout.
T'es marseillais ? T'as pas l'accent ?
Garçon n'est pas un Français. Le garçon est un juif.
Bonnet, Dupré et Lafarge sont israélites. Le père Jean les avait recueillis parce que leur vie était en danger.
Pourquoi tu me poses toujours des questions idiotes ? Que tu t'appelles Kippenstein, pas Bonnet.
Voilà, bande-annonce ou extrait de cette bande-annonce. Donc du film de Louis Malle, sorti en 1987, Au revoir les enfants, je le disais, probablement qui a marqué beaucoup d'entre nous, en tout cas une certaine génération. Louis-Marie, chargez-vous de nous redire peut-être un peu plus l'histoire, je vais essayer de camper un peu plus le décor et je vous laisserai compléter. C'est pendant la France occupée, l'hiver 43-44, Julien a 12 ans, ils sont dans un petit collège appelé Saint-Jean-de-la-Croix, tenu par des pères carmes, et donc arrive un élève, Jean Bonnet, qui devient le voisin de dortoir de Julien. Ce sont deux jeunes garçons donc, qui se jaugent. Julien est un garçon assez influent et il est fasciné par ce Jean Bonnet. Et petit à petit, il se lie d'amitié. Qu'est-ce que vous diriez pour compléter ?
Vous avez tout dit, c'est ça, c'est l'histoire. Il est intrigant, là, entendu dans la bande-annonce. Il est nouveau, il n'arrive pas en début d'année. Il n'est pas arrivé seul, hein. Il y a deux autres camarades aussi, mais qui ne sont pas dans la même classe. On ne suivra que l'un des trois, Jean Bonnet.
Et, il est mystérieux, il est brillant aussi.
Oui, intelligent. Julien et la plupart de ses camarades de classe sont des enfants issus de la bourgeoisie, donc qui ont une vie assez facile. Il arrive de temps en temps que la famille de Julien vienne lui rendre visite, la maman en particulier. Elle l'amène au restaurant. Quand on sait quelles étaient les difficultés pour manger et pour se ravitailler, on comprend que ces familles ont la possibilité de payer le restaurant, même si on n'y mange pas très bien, parce que le restaurant est lui aussi assujetti au problème des ravitaillements, mais néanmoins, en payant, on pouvait manger. Et un jour, d'ailleurs, Jean les accompagnera. C'est là où ça va un peu intriguer, parce que pour manger, c'est un peu compliqué pour lui, quoi.
Donc petit à petit, ils apprennent à faire connaissance. On va écouter un autre extrait, parce que ce Julien a de la suite dans les idées. Il creuse, et probablement que il découvre en fait des réalités qu'il connaît mal, donc il fait ça comme un enfant et il va petit à petit comprendre la gravité de ce qui se joue.
Tiens, un cadeau de Joseph. Mais merci, j'aime pas le pâté.
Mais il mange.
Non, je te dis, j'aime pas le pâté. Parce que c'est du cochon. Pourquoi tu me poses toujours des questions idiotes ? Parce que tu t'appelles Kippenstein, pas Bonnet. Au fait, on dit Kippelstein ou Kippelstein?
Voilà cet extrait. Ce qu'il y a de frappant dans cet extrait, c'est que voilà, on voit bien qu'il y en a un qui est un enfant et qui joue presque, et l'autre porte toute la gravité de la guerre. Paul Dima.
Oui, ils sont pas du tout dans la même situation, mais en même temps, le lien de proximité et d'amitié qui est en train de se construire les met à une forme d'égalité par. Voilà, il est très attentif à ce qu'il peut. Il découvre la réalité d'un jeune enfant juif qui est obligé de se dissimuler, de se cacher. Et ils savent déjà l'enjeu, enfin, qui pèse sur la découverte de sa vraie identité.
Un enfant qui a tout le temps peur, il le dit. Donc,
il a tout le temps peur. Et la scène qu'on évoquait tout à l'heure, hein, une fois, il est invité au restaurant par la mère de Julien. Et au restaurant, il y a une table de SS. Et donc, c'est un peu une peur panique, mais en même temps, il ne faut rien laisser paraître. Et toute l'histoire du film, c'est vu par des enfants, cette espèce de menace d'épée de Damoclès permanente sur la tête, et qui rend aussi le contact avec les autres très dangereux, parce qu'il ne faut absolument pas que ça se sache.
Alors, Louis-Marie ou Paul, c'est un film qui a connu un succès considérable. Vous me disiez 7 Oscars, 7 César, je ne les avais pas comptés, mais César du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur son, meilleur montage, etc. etc. Oscar aussi, donc ça c'est les Césars, Oscar aussi donc du meilleur film en langue étrangère, c'était en 1988. Louis-Marie, vous qui avez...
Il a eu aussi le Lion d'or à Venise.
Oui. Voilà, vous qui êtes un peu la mémoire cinématographique de la radio, n'est-ce pas?
Vous êtes gentil.
Pourquoi ce film a autant marqué? Parce que c'est un film magnifique ou je sais pas...
C'est un film magnifique et puis le sujet aussi. Le sujet, c'est la fin des années 80, on est encore... finalement, la guerre, c'était que 40 ans avant. C'est pas si vieux que ça, donc on a toujours ça en mémoire et le public a couru voir ce film parce qu'il faut avouer aussi qu'il est remarquablement tourné, remarquablement mis en scène et que ces enfants sont prodigieux, les deux acteurs qui n'en sont pas sortis indemnes, en particulier Julien, quand je dis pas indemne, n'exagérons rien, mais Julien, le petit français, qui est le double en fait à l'écran de Louis Malle, puisqu'en fait c'est un film autobiographique.
On en parlera juste après. Oui.
C'est ce que Louis Malle avait vécu, et c'était compliqué parce que il était Louis Malle à l'écran et Louis Malle le traitait comme ça. Il se voyait lui enfant. Donc les rapports qu'il avait avec le réalisateur étaient complexes et ça continuait comme ça à évoluer, puisque à certains moments il se tutoyait, à certains moments vous voyez, après le film, parce que dans le film, il est tout jeune, il a 12 ans. Mais pour en revenir aussi au film, il y a un autre personnage important qui est un personnage secondaire, mais qui est quand même le frère de Julien, qui lui est beaucoup plus ouvert, qui se pose pas toutes ces questions et qui prend les choses avec distance. La distance que lui permet sa situation, encore une fois, de bourgeois et qui est pas en danger. Mais le frère ouvre un peu les yeux au jeune garçon. Il dit, après tout, c'est ton ami, qu'est-ce que t'as à savoir, à aller farfouiller, fouiner.
Oui. Parlez-nous un peu de Louis Malle, Louis-Marie Soler. Donc Louis Malle, j'ai vu cinéaste resté mal aimé ou sous-estimé, oui, en France. Là, en l'occurrence, c'est presque autobiographique, puisque donc il a vécu quelque chose de semblable, mais semble-t-il, il s'était pas lié d'amitié comme ça avec cet enfant. Mais c'est un épisode donc qu'il a vécu, hein, donc d'être dans un collège avec un.
Il a vécu en particulier la dernière scène. Là.
Voilà, exactement.
L'arrestation.
Bon, bah alors, on va l'écouter, du coup.
Docteur Müller. Gestapo de Müller. Lesquels d'entre vous s'appellent Jean Kippelstein? Répondez.
Il n'y a personne de ce nom dans la classe.
Alors, c'est pas tout à fait la dernière scène, ça c'est quand la Gestapo débarque et dans la classe et que donc Jean Bonnet, donc de son vrai nom Kippelstein, est arrêté. Et la dernière scène, c'est donc un prêtre part avec les enfants juifs et ils mourront tous en camp de concentration, sauf erreur de ma part. Semble-t-il, donc c'est une histoire que Louis Malle avait enfouie tout au fond de lui et qu'il a, voilà, qui évidemment l'a marqué à vie.
Mais vous le disiez, c'est un cinéaste mal aimé parce que dans son début de carrière, il a touché un peu à tous les genres et il était difficilement classable. Et puis on le sous-estimait aussi. On n'a jamais pensé de lui qu'il était un grand réalisateur. Et pourtant, c'est à lui qu'on doit un des polars français un des plus réussis, à mon sens, avec une musique formidable jouée par Miles Davis, que Miles Davis avait improvisé en regardant les images, à savoir Ascenseur pour l'échafaud. Et puis il avait fait aussi un documentaire qui avait eu la Palme d'Or à Cannes, Le Monde du Silence, avec Cousteau. Et puis il avait fait Zazie dans le métro, donc il touche un petit peu à tous les genres. Et 15 ans avant Au revoir les enfants, il avait fait Lacombe Lucien, qui traitait aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais du point de vue de la collaboration, puisqu'on suivait un
jeune qui s'était laissé embarquer.
Qui était dans la milice.
Dans la milice.
Il voulait être résistant, on ne l'a pas pris dans la résistance, oui. Alors il est allé dans la milice. Alors il a eu droit à une levée de bouclier des intellectuels, alors du coup, il s'est dit, puisque c'est comme ça, alors je mime Louis Malle, mais tant pis pour vous, je me casse. Et il est parti pendant 15 ans, une bonne dizaine d'années, aux États-Unis.
Paul Dima, pourquoi ce film vous a plu et pourquoi est-ce qu'à votre avis, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre ?
Alors, c'est un chef-d'œuvre à plusieurs niveaux. D'une part, par la qualité filmique. Et c'est pas un film qui théorise sur la guerre, ni qui fait un discours moralisateur. C'est la guerre vue par deux enfants. Et c'est très très fort parce que les regards, les silences, les observations des enfants, le poids qui pèse sur eux, en dit beaucoup plus que toute démonstration. C'est donc pas un cinéma qui veut démontrer quelque chose. Il dit comment des enfants ont vécu ça et ont vu juste. Il y a un deuxième point qui est très fort, c'est ce qui remonte chez Louis Malle dans son désir de faire le film, c'est le courage de ce prêtre Carme et des religieux qui ont accueilli en toute connaissance de cause, et c'est pas la seule histoire qui s'est passée comme ça, vrai.
Jacques de Jésus.
Oui, Jacques de Jésus.
De son nom de baptême, Lucien Bunel, oui. Si j'ai bien compris.
Donc un prêtre Carme qui est embarqué et qui va mourir en camp de concentration. Et ce film rejoint à la fois l'histoire de Louis Malle, qui donc avait rencontré ce jeune condisciple juif qui se faisait passer pour Lucien Bonnet, et en même temps un autre grand nom du cinéma français, Gilles Jacob, qui lui a été un jeune enfant juif accueilli dans un pensionnat à la campagne aussi, un pensionnat religieux. Et le film de Louis Malle montre que la grandeur d'âme et l'ignominie, tout ça, ça se côtoie. C'est-à-dire qu'il n'idolâtre pas les uns, il ne condamne pas les autres, mais il dit, ben voilà, en temps de guerre, il y a les lâches et les héros. Et dans le film, il y a une religieuse qui, prise de panique, quand l'officier SS vient pour trouver les juifs qui sont démasqués, elle fait voir sans rien dire, d'un regard des yeux, il y en a un dans le placard. Et il est embarqué.
Est-ce que c'est pas aussi un film un peu sur la culpabilité, non? Parce que il y a aussi une scène qui est j'ai remarqué ça, donc cette scène, celle qu'on a écoutée la dernière, quand la Gestapo débarque dans la classe, en fait, on voit le jeune Julien qui tourne son regard vers son ami.
Et c'est comme ça que le docteur, ça fait toujours frémir qu'il se fasse appeler docteur, alors que c'est un tortionnaire de la pire espèce, un flic, quoi, mais un flic abominable, parce que dire flic encore, ça serait bien le qualifier.
C'est pas gentil pour les flics.
Mais c'est pas gentil pour les flics, exactement. mais oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que de la même, c'est ce dont parlait à l'instant Paul de la religieuse qui tourne le regard vers le placard, et lui tourne le regard parce que il a peur, lui. Il a peur pour son ami, et en tournant le regard vers lui, il le désigne.
Mais on a dit que Louis Malle aussi aurait fait ce film comme pour vivre cette amitié qu'il aurait aimé ou qu'il s'est reproché de ne pas avoir avec cette...
Et c'est peut-être qu'il se reproche de ne pas avoir cette amitié, parce qu'en fait, on a beaucoup dit de ce film que c'était un film sur l'amitié. C'est pas ça, c'est un film sur l'enfance. Comme l'a bien souligné Paul, c'est un film sur l'enfance et la façon de percevoir ces moments douloureux et difficiles à vivre, et cette perception beaucoup plus précise que qu'avaient les adultes. En fait, ces enfants, ils avaient bien compris qu'il fallait protéger ce garçon, ces garçons, parce qu'ils étaient trois. Ils n'ont rien fait pour les dénoncer, eux. Alors, il y a un autre problème. Il y a un personnage dans le film aussi, parce qu'il est assez astucieux, Louis Malle. Il est malin, il ne fait pas dans le sentimentalisme. Il y a un personnage, un factotum, dans ce collège, qui est maltraité par les élèves, qui sont tous... Encore une fois, je le répète, des enfants de bourgeois et qui se moquent de lui. Et ce factotum, c'est lui, en fait, qui dénonce ces trois enfants. Alors, la religieuse ne fait que signaler la présence de l'enfant dans le placard, mais il ne serait jamais allé dans le collège si ce factotum n'était pas allé à la commandant tour.
Ce factotum, qui est un jeune, lui
oui,
aussi un peu plus âgé, un petit peu plus âgé que les élèves.
Et puis qui est un peu claudiquant aussi.
Et alors, les soldats allemands lui passent des cigarettes, des trucs... Voilà. Enfin, il se fait embarquer.
Factotum, pardon, excusez-moi, c'est quoi ?
Un homme toute main.
C'est un homme à tout faire, c'est-à-dire que c'est lui qui sort les poubelles, c'est lui qui épluche les légumes, qui balaye, qui fait le ménage.
Voilà, donc un film à voir, Au revoir les enfants de Louis Malle, Lion d'or, César du meilleur film et Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1987 et 1988. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve pour parler donc de La loi du silence d'Alfred Hitchcock.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma mensuelle avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission Cinéma N'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h sur Radio Présence, et Paul Dima, intervenant cinéma auprès des Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, et tous deux animateurs donc de ce fameux ciné-club où il faut aller. Ils m'ont dit que ça avait du succès, mais qu'il y avait encore des places dans la salle. Ciné-parole en l'occurrence, de mardi prochain, deux séances, 14h30 et 20h30, pour tout ce qu'il me reste de La Révolution, le film à l'affiche dont on a parlé au début de cette émission, film de Judith Davis. Voilà, on revoit le film et puis après, vous en parlez avec eux. Et quand vous voyez tout ce qu'ils ont à dire, ça vaut le coup d'y aller. Dernier film, donc le chef-d'œuvre spirituel, La loi du silence, d'Alfred Hitchcock, sorti en 1953, voilà, réalisé donc par ce géant du cinéma. Je vais commencer par résumer, puis on va écouter un court extrait, parce que, hélas, l'extrait est en anglais, donc on pourra pas écouter grand-chose. C'est l'histoire d'un certain Otto Keller. C'est la scène, le film se passe au Québec, qui assassine un avocat appelé Villette, et qui, on peut le dire, allez, en tout cas, qui va parler à un prêtre, le père Michael Logan. Voilà le nœud de l'intrigue, et derrière se joue tout un développement autour de la question du silence, pour reprendre l'introduction, puisque le père Michael Logan va être accusé du meurtre commis par cet Otto Keller. On écoute un court extrait de la bande-annonce, et on en parle. Voilà, on n'ira pas plus loin, mais je me suis
dit... Non, mais il ne s'est pas entendu parler en anglais.
Ah oui, mais il n'y avait pas grand-chose, vraiment très peu. Et en fait, il y a surtout des sous-titres. Mais je me suis dit qu'au moins, la musique, ça mettait dans l'ambiance. Non, on sent qu'on est quand même dans les années 50.
Parce que c'était une époque où les bandes-annonces duraient pratiquement 3 minutes. 2030, c'était long. Hein.
Oui. Et on expliquait, en écrivant sur l'écran, ce qui allait se passer.
Mais on entendait aussi une voix off qui racontait l'histoire.
Ah oui, c'est vrai. Bon, je vous ai frustré d'anglais. Alors Louis-Marie, accompagnez-moi et racontez, peut-être à développer un petit peu plus l'intrigue de ce qui ressemble un peu à un roman policier quand même.
Ben oui, il est
un peu beaucoup.
Et puis la façon dont Hitchcock a choisi de raconter cette histoire. Donc il y a la confession, et puis il y a des flashbacks, puisqu'on revient sur la vie du père Logan avant qu'il ne devienne prêtre. Et là, on part dans un long flashback où il a eu une vie amoureuse, où il a eu un grand amour. Un grand amour qui existe toujours.
Madame Grandford. Oui. Grandford, pardon.
Et c'est la grande Anne Baxter, quand même, qui était une grande vedette à l'époque, comme le père Logan, interprété par Montgomery Clift, qui était vraiment un très, très grand comédien. Et il y a cette façon de raconter l'histoire. Alors, le film, dans la filmographie de Hitchcock, vient après L'Inconnu du Nord Express, qui avait rencontré un grand succès public, parce que le film était malin, les spectateurs s'étaient précipités en masse voir le film, et avant, Le Crime était presque parfait. Donc, deux grands films d'Hitchcock. Donc, celui-là, entre les deux, passe pour être
un peu mineur.
Un peu mineur, voilà, il faut bien avouer. Mais y a quelque chose de fort, parce que quand même, il est malin, Hitchcock, dans son film, il reprend dans L'Inconnu du Nord Express, vous savez, c'est un échange de meurtres, comme ça on est sûr de pas être pas se faire attraper par la police, dans la mesure où on a forcément un alibi au moment où l'autre est assassiné. Ben là, c'est un peu ça, puisqu'il y en a un qui se fait passer pour un prêtre, et puis le prêtre va finalement... puisqu'il ne peut pas...
Bon, attendez, là vous nous perdez. Donc, Paul,
mais si,
vous
si.
Avez passé votre tour. Paul Dima, essayez de nous raconter l'histoire.
C'est pourtant clair.
Sans faire trop de digressions. Alors Paul, racontez-nous un peu plus l'histoire au-delà de ce que j'ai présenté.
Sans faire de digressions,
ah, c'est cinéphile.
Essayer de tenir le propos.
Donc Michael Logan est accusé à tort d'un meurtre.
Il est accusé à tort d'un meurtre. Et comme Keller, qui est son employé, est venu s'en confesser, il ne peut rien dire parce qu'il est tenu en tant que prêtre au secret de la confession. Et donc toute l'intrigue est construite là-dessus, puisque Keller s'était déguisé en prêtre au moment d'aller tuer. Il a été vu par deux jeunes filles qui disent « mais c'est un prêtre qui l'a tué ». Et donc, comme le père Logan refuse de répondre aux questions, eh ben, c'est forcément le coupable. Et puis, on découvre au cours de l'enquête que il a eu une relation amoureuse. Mais lui est parfaitement clair par rapport à ça. Du moment où il est parti à la guerre, et en revenant de la guerre, il choisit d'être prêtre, et il s'est engagé dans la vie de prêtre, qu'il exerce honnêtement.
Mais cette Madame Grandfort
est restée, bien que se mariant, puisque son amoureux était parti à la guerre, est restée amoureuse de ce prêtre, mais qu'elle n'avait pas revu.
Oui, ça restait un amour un peu fantasmatique.
Voilà. Alors je sais que vous n'y étiez pas en 1953, mais est-ce qu'on peut contextualiser ce type aussi de film ? C'est-à-dire que faire un film sur une figure de prêtre qui garde comme ça donc, ce secret, ça on en parlera après, on peut imaginer que ça pouvait être compréhensible, mais une figure de prêtre qui est quand même très humaine. Voilà, c'est un homme qui a aimé, c'est un homme qui, de retour de la guerre, a une amitié avec cette femme. C'est un très bel homme aussi.
C'est un très bel homme.
Est-ce qu'on sait comme ça a été un peu pris ou reçu ? Est-ce que c'était une manière originale de parler comme ça un peu d'une figure de prêtre ou...
Oui, c'était un peu osé même à l'époque, puisque on parlait pas de ça. Et puis c'était pas. Et en plus, ça se passe au Québec.
Oui. Les prêtres n'avaient pas eu de vie sentimentale.
Ils n'avaient pas de vie sentimentale. Oui.
Oui, ça se passe pas aux États-Unis ni en Angleterre, non. Parce qu'Hitchcock est un réalisateur anglais qui a fait des films en Angleterre, mais aussi qui a fait carrière aux États-Unis. Et là, on est au Québec.
Il paraît que ça a été censuré un peu au Québec. Si vous avez vu ça, non ?
Il paraît qu'il y a certaines scènes
qui ont été coupées.
C'est possible.
Alors,
c'est-à-dire que c'est quand même perturbant.
Oui, parce que toute l'intrigue du film laisse croire que ce prêtre a une relation coupable.
Oui, c'est ça qui... Et puis, c'est le regard, en fait, c'est le regard que porte la population sur lui. Mmh. C'est-à-dire que ce type, il n'est pas comme eux. Ce prêtre n'est pas comme eux. Il se tait, il dit rien, et il suffirait qu'il parle. Et ça aplanirait tout ce qu'on pourrait imaginer à son propos.
Alors avant qu'on parle peut-être du silence, puisque c'est le fil conducteur de cette émission et que là en l'occurrence il y a probablement beaucoup de choses à dire, j'aimerais qu'on parle un peu de Montgomery Clift. J'ai compris que cet homme était un homme qui avait eu une vie fort difficile et douloureuse, puisqu'il était homosexuel et il a extrêmement mal vécu. De son temps, la manière dont il était regardé, un homme, j'ai lu, qui était presque mort de chagrin, non ?
D'une certaine façon, oui. Il aurait pu avoir une carrière, il a eu une très belle carrière à Hollywood malgré tout, parce qu'il n'était pas le seul de vivre cette condition de façon difficile, quoi. Mais c'était un formidable acteur qui aurait pu avoir une autre race si... parce que on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de James Dean et de ce qu'il représentait auprès de la jeunesse, mais il avait un physique, il était aussi beau que James Dean, Monty Clift, parce qu'on l'appelait comme ça, Montgomery Clift, et il n'a pas... Il a eu des rôles formidables et il aurait pu exploser littéralement, représenter, être une figure du cinéma américain qu'il n'a pas été, probablement à cause de son problème, son homosexualité, qui était un problème pour les autres et par voie de conséquence pour lui.
Voilà, l'acteur ne supportant plus le regard des autres sur sa sexualité, lui quitte Hollywood pour New York. Il avait comme grand ami aussi Elizabeth Taylor.
Qui s'est occupé de lui parce qu'il a eu un accident gravissime, et c'est elle qui l'a soigné. Elle a loué ce qu'on appelle une penthouse, vous savez, le dernier étage d'un hôtel, le fameux Château Marmont à Hollywood, et elle s'est occupée de lui pendant tout le temps où il a dû rester alité parce qu'il avait été gravement blessé dans cet accident.
Paul Dima, le silence, là en l'occurrence c'est tout trouvé, quel commentaire ça attire pour vous et pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre ? Deux questions en une de mes spécialités.
C'est un chef-d'œuvre par la façon dont l'histoire est tournée et construite. C'est-à-dire il y a un suspense que bon, la fin est surprenante. On ne va pas la raconter.
Surtout pas.
Pour une fois, on ne va pas raconter la fin.
Je vous invite à aller le voir. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui n'a jamais cédé à la peur. Il est très séduisant en même temps, on en parlait, hein, donc il est admirable. Mais en même temps, il devient un homme dont il faut se méfier au cours du procès. Et alors, les jurés sont invités à délibérer. Et ils disent « Nous n'avons pas les preuves suffisantes pour dire que c'est lui qui a commis le meurtre. » Donc,
il est soupçonné d'un crime d'amour et il est relâché.
Il est relâché.
Il est presque lynché par la foule.
Et en sortant, il est quasiment, oui...
Il pourrait l'être. Parce que les regards sont menaçants.
Oui.
Alors ça, c'est la réponse au chef-d'œuvre. Et le silence, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, le silence, en même temps, c'est un prêtre qui tient ce que lui demande sa religion. C'est-à-dire, on ne divulgue pas le secret entendu en confession, même si c'était une manœuvre pour le coincer. Donc, il s'y tient. Et en même temps, il se défend avec sobriété, mais justesse. Il dit « Non, je n'ai pas tué ». Non, ce n'est pas ma soutane. Non, je suis incapable de commettre un meurtre, alors que tout semble l'accuser. Il dit non, c'est pas moi.
Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait comprendre ou entrevoir, en tout cas, aussi le sens du secret de la confession, puisqu'il y a quand même pas mal d'auditeurs qui sont des chrétiens, et certains des chrétiens pratiquants. Parce que sans dévoiler la fin du film, on touche du doigt à un moment que le fait qu'il ait tenu ce secret, c'est aussi une manière de... en tout cas pour Otto Keller, d'avoir vérifié en fait l'amour ou l'amitié qu'il lui portait.
Oui, et de vérifier aussi que ce prêtre est un homme juste, alors qu'il l'enferme dans quelqu'un d'ambigu, voire un peu pervers, quoi.
Il est très malin, Hitchcock, voire roublard, parce que la façon dont il montre le prêtre, toujours, il y a toujours, quand on voit le personnage du père Logan, donc incarné par Montgomery Clift,
il est
toujours filmé en contre-plongée, et dans le champ, il y a toujours ou un crucifix, ou une scène de la passion, un clocher, et toujours comme ça, filmé comme ça, et il est l'image même de la droiture ecclésiastique, mais il est capable, c'est pour ça que je dis qu'il est roublard, il est même pervers, diaboliquement pervers, Hitchcock, parce que c'est un prêtre beau, oui. Donc c'est forcément louche.
Oui.
Voilà.
Voilà, donc un film entre autres
pour toute
donc,
forme de procès
sur, voilà, exactement.
Sur une figure de prêtre et voilà, qui dit des choses intéressantes en tout cas aussi dans le contexte actuel, oui. sur la grandeur du sacerdoce. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin donc, pour parler cinéma. Je rappelle une dernière fois Tout ce qu'il me reste de la révolution de Judith Davis, film à l'affiche. Précipitez-vous pour ce ciné-débat et continuez la conversation avec nos deux messieurs cinéma. C'est mardi prochain, 12 février, deux séances, 14h30 et 20h30. Et mon petit doigt me dit qu'il faut aller surtout à la séance de 20h30, n'est-ce pas, Louis-Marie Soler? Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.